en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, je remercie Gilbert Guillaume de m'avoir invité à revisiter, 15 ans après, une journée qui a marqué l'histoire. Une journée où, par les hasards du calendrier, la France a été amenée à prendre une initiative forte à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis frappé de voir que chacun se souvient où il était et ce qu'il faisait ce 11 septembre 2001, quand la nouvelle de l'attaque des deux tours jumelles de New York s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier, permettant à des centaines de millions de personnes de suivre en direct sur leurs écrans de télévision le déroulement des événements. La mémoire n'étant pas forcément fidèle, j'ai demandé à ceux qui m'entouraient alors, en ma qualité d'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, de revivre avec moi cette journée tragique. Et je les en remercie. Yves Doutriau, alors ministre conseiller, aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, conseiller d'État et professeur associé à l'Université de Paris 1, Pascal Teixeira, qui était le conseiller politique, aujourd'hui ambassadeur en Autriche, et Jean-Luc Florent, conseiller juridique, récemment encore ambassadeur à Chypre, et qui est venu nous en parler en octobre. Jean-Marc de la Sablière vous a décrit au printemps le mandat, le fonctionnement et les résultats obtenus par le Conseil de sécurité. Il vous a dit les semaines de travail intense, souvent nécessaires, pour parvenir à un accord entre les délégations et les capitales, sur un texte susceptible d'apporter un progrès dans la recherche de solutions de paix aux conflits de notre temps. Le 11 septembre 2001 fait exception à ces procédures lentes et bien balisées. Ce jour-là, il faisait, comme aujourd'hui d'ailleurs, un temps magnifique. Et à 8h30, j'étais dans mon bureau au 44e étage d'une tour située à quelques minutes du bâtiment des Nations Unies. Des baies vitrées de mon bureau, nous avions une vue imprenable sur le sud de Manhattan et notamment sur les deux tours jumelles. Le nez dans les dossiers du jour, je n'ai pas vu le premier avion s'encastrer dans la tour nord. Mais, levant les yeux, j'ai vu l'immense nuage de fumée noire s'échappant des étages supérieurs. J'ai aussitôt appelé mes collaborateurs et nous commentions ce qui nous apparaissait comme un incendie accidentel lorsque, quelques minutes plus tard, à 9 heures, nous avons vu un gros avion de ligne s'approcher et littéralement s'encastrer dans la deuxième tour, la tour sud, provoquant une gigantesque explosion suivie d'un deuxième énorme panache de fumée. Notre réaction a été immédiate. Ce n'était donc pas un accident. L'Amérique était attaquée, elle était en guerre. Nous avons immédiatement mis en marche la télévision de mon bureau qui annonçait qu'un nombre indéterminé d'autres avions étaient dans les airs et susceptible de frapper d'autres sites de New York et d'ailleurs. Nous pensions évidemment au bâtiment des Nations Unies, tout proche. Nous avons interrogé la sécurité de notre immeuble pour savoir s'il y avait des consignes d'évacuation. Aucune. Quant au bâtiment de l'ONU, il avait été immédiatement évacué et fermé. Nous sommes donc restés à suivre les événements après avoir libéré les agents de la mission permanente dont la présence n'était pas indispensable. Les ponts et les tunnels de l'île de Manhattan avaient été fermés à la circulation. Seules les ambulances et les véhicules des pompiers et de la police passait en trombe sous nos yeux. Soudain, la tour sud, pourtant la seconde à avoir été frappée, a commencé à s'effondrer, lentement, dans un immense nuage de poudre, de ciment et de béton. Puis la seconde, la tour nord, s'est ensuite affaissée. Lorsque le nuage s'est dissipé, les deux tours avaient disparu. Nous étions convaincus que leur chute avait provoqué près de 20 000 morts, car nous n'étions pas informés de l'évacuation ordonnée des deux bâtiments qui avaient pu se dérouler de façon admirable pendant l'heure précédant l'effondrement des deux tours grâce aux pompiers de New York. Le nombre des victimes a ainsi pu être limité à 3 000, ce qui en fait néanmoins l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Nous apprenions que parallèlement à ces événements de New York, un autre avion de ligne avait partiellement détruit le Pentagone, pendant qu'un quatrième s'était écrasé en Pennsylvanie. Nous étions tous les quatre dans un état de sidération, sous le choc. Peu à peu, nous avons repris le contrôle de nous-mêmes et notre premier réflexe a naturellement été d'appeler Paris, le Quai d'Orsay et l'Élysée. Impossible. Impossible, toutes les lignes étaient inutilisables, submergées d'appels. Nous étions donc livrés à nous-mêmes. Que faire ? Progressivement, il nous est apparu comme une évidence que nous ne pouvions rester inactifs. Ce dont nous venions d'être les témoins représentait une attaque terroriste sans précédent dans l'histoire. Première puissance mondiale, les États-Unis allaient entrer dans une nouvelle forme de guerre contre l'organisation terroriste à l'origine de cette attaque. Il était clair que le 11 septembre 2001, le monde entrait dans une ère nouvelle. Bien sûr, le terrorisme existait depuis toujours, sous des formes et pour des motifs variables. Mais ce qui venait de se passer changeait radicalement la donne. Pour la première fois, depuis l'attaque japonaise de Pearl Harbor en 1942, les États-Unis étaient attaqués sur leur sol. Et, par rapport à Pearl Harbor, les différences étaient majeures. Nous n'étions pas dans le contexte d'une guerre mondiale, mais au contraire dans une période de paix, une période d'optimisme, 10 ans après l'implosion de l'Empire soviétique et la fin de la guerre froide. Nous avions tous l'espoir de construire un ordre mondial fondé sur la Charte des Nations Unies, où les valeurs et les règles qui y sont inscrites pourraient progressivement s'imposer partout. Cette période d'optimisme, qui depuis, je dois le dire, a complètement disparu, coïncidait aussi avec une domination absolue des États-Unis d'Amérique dans l'ordre international et dans tous les registres de la puissance, l'hyperpuissance, selon le mot très juste, d'Hubert Védrine. Or, voici que cette Amérique hyperpuissante se trouvait attaquée, non pas dans une île lointaine, mais dans sa ville la plus symbolique de la puissance américaine, New York, et dans son cœur financier, avec la destruction des tours jumelles, qui en était devenue l'image dans le monde entier. Au fait de sa puissance, l'Amérique découvrait soudain son extrême vulnérabilité. Comment allait-elle réagir ? Voilà la question que nous nous sommes posée immédiatement. Et notre crainte était quelle est la tentation de se faire justice elle-même, en ignorant les règles internationales et les Nations Unies. Et nous avions quelques bonnes raisons de le craindre. Le président George W. Bush avait été élu sur un programme républicain centré sur la puissance américaine. Et surtout, le Congrès contrôlé par la majorité républicaine, vouait une haine assez irrationnelle aux Nations Unies. Jesse Helms, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, incarnait cette hostilité viscérale. Il avait obtenu que les États-Unis ne payent plus leurs cotisations à l'ONU. Et la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis à New York, John Negroponte, était bloquée par le Sénat depuis des mois. Nous étions donc, et c'était le cœur de notre raisonnement en ce 11 septembre 2001, devant l'un de ces moments où l'histoire, avec un grand H, pouvait s'engager dans deux voies fondamentalement différentes. Soit l'Amérique attaquée, meurtrie, profondément déstabilisée, s'engageait seule dans une croisade contre l'organisation terroriste qui l'avait frappée, et l'ordre mondial incarné par la Charte des Nations Unies s'en trouvait profondément affaibli, au moment même où nous pouvions espérer le renforcer, soit les États-Unis acceptaient de jouer collectif, de prendre la tête aux Nations Unies d'une coalition large de toutes les nations prêtes à s'engager à leur côté dans une lutte sans merci contre le fléau du terrorisme. Ce raisonnement nous a conduit à prendre l'initiative d'une déclaration à la presse, transmise par fax à nos partenaires du Conseil de sécurité, puis aux médias. Je dois dire que dans le mainstream médiatique du 11 septembre, elle est passée totalement inaperçue. Nous avons donc décidé de rédiger un court projet de résolution en concertation avec la mission américaine auprès des Nations Unies. Celle-ci partageait notre raisonnement et notre inquiétude sur la possible réaction unilatérale de Washington. Elle souhaitait donc un texte aussi dur que possible. Pour l'essentiel, dans notre texte, le Conseil de sécurité reconnaissait pour la première fois dans le préambule, à la demande des États-Unis, que le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective, conformément à la Charte, pouvait s'exercer en réponse à l'attaque d'un groupe terroriste international et pas seulement en réponse à l'attaque d'un État. Puis, dans le dispositif du texte, nous indiquions que le Conseil de sécurité condamnait catégoriquement les attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York et considérait de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Le Conseil, dans notre texte, appelait tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les commanditaires de ces attaques terroristes. Et il soulignait que ceux qui portent la responsabilité d'aider, de soutenir, d'héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devraient rendre des comptes. Le Conseil appelait également la communauté internationale à redoubler d'efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes et des résolutions du Conseil de sécurité. Enfin, le Conseil, dans notre texte, se déclarait prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies. Les juristes, Monsieur le Président, les juristes pourront, à bon droit, considérer que ce texte, rédigé en une heure et assimilant pour la première fois un acte de terrorisme international à un acte de guerre, est perfectible. Je sais que c'est en particulier la conviction de Gilbert Guillaume et j'en conviens volontiers. Notre objectif, Monsieur le Président, avec ce bref texte, n'était pas de négocier longuement une résolution juridiquement parfaite. Notre but était d'envoyer très vite un message simple, un message fort au gouvernement et au Congrès des États-Unis. Ne vous faites pas justice seuls. jouez collectif. Prenez la tête d'un vaste mouvement contre le terrorisme international, un mouvement fondé sur la Charte des Nations Unies et l'action du Conseil de sécurité. Notre texte prêt, nous nous sommes heurtés à un problème logistique. Comment prévenir les autres membres du Conseil dont les missions avaient été fermées? Nous avons obtenu que le secrétariat du Conseil de sécurité prévienne les 14 autres missions de notre intention, en tant que président du Conseil, de tenir une réunion urgente dès le 12 septembre au matin. Le 12 septembre au matin, à 11h30, nous étions tous rassemblés dans la salle de consultation du Conseil. La plupart des délégations n'avaient pu prendre connaissance de notre texte, traduit en anglais, avant le début de la séance. Mais nous étions tous animés de la même conviction. Les Nations Unies, c'est-à-dire en l'occurrence son Conseil de sécurité, devaient réagir et ils devaient le faire sans délai. L'air dans la salle du Conseil était enfumé par le gigantesque incendie qui faisait rage dans les sous-sols des tours jumelles détruites où se trouvaient d'énormes réservoirs de fioul et d'essence. Dans cette atmosphère, j'ai proposé à nos partenaires du Conseil que nous laissions les conseillers politiques et les conseillers juridiques de nos 15 missions relire attentivement le projet de résolution pour en corriger les éventuelles faiblesses pendant que les ambassadeurs passeraient directement dans la grande salle du Conseil. Après avoir ensemble observé une minute de silence en hommage aux victimes, chaque ambassadeur prendrait brièvement la parole devant les caméras des chaînes de télévision américaines et internationales pour exprimer au nom de son pays nos sentiments de solidarité à l'égard du peuple américain et des victimes. Le chargé d'affaires des États-Unis, Jim Cunningham, nous répondrait. Puis le projet de résolution, relu par les conseillers politiques et les conseillers juridiques, serait présenté officiellement et nous procéderions immédiatement au vote sur le texte en présence du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Enfin, j'ai proposé que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le vote ne se fasse pas à main levée, mais que chaque ambassadeur votant en faveur du texte se lève pour exprimer ses respects aux victimes du 11 septembre et son soutien au texte de la résolution. Tout ceci fut accepté pratiquement sans discussion par mes collègues, y compris par les ambassadeurs de Russie, Sergueï Lavrov, et de Chine, Wang Yinfan, qui d'ordinaire réclamaient des jours, voire des semaines, pour consulter leur capitale. Notre projet de résolution, déjà approuvé par les États-Unis, victimes de l'attaque, fut peu modifié. Les Russes ont souhaité le durcir encore, et personne n'y a fait objection. Et donc, en fin de matinée ce 12 septembre 2001, la résolution 1368 du Conseil de sécurité était adoptée à l'unanimité, établissant sans doute un record de brièveté de la négociation d'une résolution depuis la création des Nations Unies. Je dois dire que la résolution eut l'effet que nous en attendions à Washington, y compris auprès du Congrès, où la nomination de John Negroponte comme ambassadeur à l'ONU, qui était en panne depuis des mois, et le paiement de tous les arriérés dus aux Nations Unies furent votés sans délai. Le lendemain, John Negroponte prenait ses fonctions à New York et nous avons immédiatement commencé à travailler sur un deuxième projet de résolution du Conseil de sécurité qui fut adopté, lui aussi, à l'unanimité à la fin de notre mois de présidence, le 28 septembre, sous le numéro 1373. Cette deuxième résolution fut le fruit d'un travail, cette fois-ci, approfondi et consensuel, rassemblant Autour de la France, les États-Unis, bien sûr, le Royaume-Uni, mais aussi la Russie, la Chine, puis tous les autres membres du Conseil de sécurité. Cette résolution 1373 a mis en place une véritable stratégie ambitieuse, cohérente, de lutte contre le terrorisme international. Le texte de la résolution reprend nombre de mesures figurant déjà dans deux conventions internationales adoptées en 1997 et 1999. Mais, c'est sa grande nouveauté, il fait obligation à tous les États membres des Nations Unies d'empêcher par tous les moyens le financement, la planification, la mise en œuvre d'actes terroristes à partir de leur territoire. Il leur fait également obligation de traduire en justice ceux qui s'engageraient dans cette voie. Placé dans le cadre du chapitre 7 de la Charte et donc juridiquement contraignante, la résolution invite tous les États à se prêter aide et assistance dans cette lutte. Elle établit un comité du Conseil de sécurité pour en suivre la mise en œuvre, en passant en revue les mesures législatives et exécutives de lutte contre le terrorisme existant dans chaque État à travers le monde et en proposant des mesures d'assistance aux États qui en auraient besoin. Ainsi, chers amis, deux semaines après les attentats du 11 septembre 2001, la communauté internationale, sous l'impulsion de la France, s'était dotée d'une stratégie ambitieuse et cohérente mise en œuvre par le Conseil de sécurité. Reste enfin, cher Président, le débat sur l'extension de la notion de légitime défense individuelle et collective. Que dit à ce sujet l'article 51 de la Charte des Nations Unies ? Je le cite. Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Le 12 septembre 2001, nous avons certes étendu le champ d'application de ce droit de légitime défense à l'encontre d'acteurs non étatiques, dès lors qu'ils agissent avec l'aide ou la complicité d'États. Mais la référence explicite à la charte dans notre texte permet, je le pense, d'encadrer cet exercice de la légitime défense par l'État attaqué et de préserver intégralement le rôle du Conseil de sécurité tel qu'il figure dans l'article 51 de la Charte. En cohérence avec ce rôle majeur de la France au Conseil de sécurité, Jacques Chirac, président de la République, fut, dès le 18 septembre, le premier chef d'État étranger à se rendre sur le site des attentats à Ground Zero, puis au siège des Nations Unies pour y rencontrer Kofi Annan, et enfin à Washington pour conférer avec le président Bush de la mise en œuvre concrète de la réaction de la communauté internationale aux attaques du 11 septembre dans le strict respect de la Charte des Nations Unies et du rôle du Conseil de sécurité. Jouant pleinement le jeu, les États-Unis ont informé régulièrement le Conseil de sécurité de leur démarche pour obtenir du gouvernement afghan, dirigé par les talibans, l'extradition de Ben Laden et de ses associés. Devant son refus de coopérer, les États-Unis se sont orientés vers une action militaire. Le 7 octobre, le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité a adressé une lettre au président du Conseil annonçant le début des opérations militaires américaines. Je le cite, « Les attaques perpétrées le 11 septembre et la menace que l'organisation Al-Qaïda fait actuellement peser sur les États-Unis et ses ressortissants découle de la décision du régime des talibans de permettre que les parties de l'Afghanistan placées sous son contrôle servent de base d'opération. Malgré tous les efforts déployés par les États-Unis et la communauté internationale, le régime des talibans a refusé de changer de politique. Depuis le territoire de l'Afghanistan, l'organisation Al-Qaïda continue d'entraîner et d'appuyer les terroristes qui attaquent des personnes innocentes dans le monde entier et prennent pour cible les ressortissants des États-Unis et les intérêts américains dans notre pays et à l'étranger. C'est le début de l'opération Enduring Freedom, conduite par les États-Unis avec la contribution militaire de l'Alliance du Nord afghane ainsi que de nombreux pays, dont la France, avec le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval. Les talibans perdent le pouvoir au terme de 5 semaines d'opération, mais malheureusement Oussama Ben Laden réussit à fuir au Pakistan. La communauté internationale reste fortement engagée en Afghanistan et le Conseil de sécurité n'adopte pas moins de 3 résolutions après le début des opérations militaires et avant la fin de cette année 2001, la résolution 1378 le 14 novembre, la résolution 1383 le 6 décembre et la résolution 1386 le 20 décembre, toutes adoptées à l'unanimité. Elles affirment, et je cite, que les Nations Unies doivent jouer un rôle central pour appuyer les efforts du peuple afghan pour établir d'urgence une nouvelle administration de transition. Cette nouvelle administration est formée lors de la réunion à Bonn de toutes les parties prenantes, avec à sa tête le président Karzai. Le Conseil de sécurité, enfin, autorise la création d'une force internationale d'assistance à la sécurité, la FIAS, dont le mandat va être renouvelé par le Conseil tous les 6 mois, et à laquelle plus de 40 pays, dont la France, vont participer. Alors, Monsieur le Président, comment expliquer que seulement 18 mois après cette coopération exemplaire entre les États-Unis et les Nations Unies, Washington ait décidé de rompre avec cette stratégie collective et de s'engager, sans l'accord du Conseil de sécurité, dans une guerre de choix en Irak. Il m'a été donné de vivre cette évolution profonde de la position américaine, d'abord comme ambassadeur à l'ONU, puis comme ambassadeur aux États-Unis à partir de décembre 2002. Tout avait pourtant bien commencé. Avec la négociation, certes lente et fastidieuse, plus de 7 semaines, de la résolution 1441, adoptée à l'unanimité le 8 novembre 2002. Cette résolution organisait le retour des inspecteurs des Nations Unies en Irak pour établir s'il y existait encore des stocks d'armes de destruction massive et pour obtenir, si besoin était, leur destruction sous le contrôle des Nations Unies. La négociation avec nos partenaires américains faisait clairement apparaître une division profonde du gouvernement des États-Unis en 2 camps. Ceux qui souhaitaient continuer à jouer collectif et à s'appuyer sur les Nations Unies. Ce camp était conduit par le secrétaire d'État Colin Powell. Et ceux qui considéraient que les États-Unis devaient attaquer l'Irak de Saddam Hussein au jour choisi par Washington, avec ou sans les Nations Unies. Ce camp était conduit par le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. Devant ces divisions américaines, la France a réussi à obtenir, dans la résolution 1441, que le camp conduit par Colin Powell l'emporte. Il y était prévu, noir sur blanc, qu'aucune opération militaire ne devait être engagée en Irak sans l'adoption au préalable d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité l'autorisant, ce qui garantissait la préservation de la coalition internationale établie au lendemain des attentats du 11 septembre. On sait ce qu'il en advint. Malgré tous les efforts de la France et de bien d'autres États pour les en dissuader, sous la pression des dirigeants néoconservateurs américains, en mars 2003, les États-Unis décidèrent de s'engager dans la guerre en Irak, sans justification, puisque les inspecteurs déployés par les Nations Unies dans le pays n'avaient pas trouvé d'armes de destruction massive et, sans résolution du Conseil de sécurité, les y autorisant. Cette décision du président Bush, condamnée avec force par le gouvernement français, a littéralement cassé le climat d'entente que la France avait aidé les États-Unis à bâtir autour d'eux dans la lutte contre le terrorisme. Profondément divisée, la communauté internationale et les États-Unis au premier chef ont échoué dans la lutte contre le terrorisme. Depuis 2003, les Nations Unies ne sont pas parvenues à reconstruire l'entente profonde qui a existé au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Aussi longtemps que ces divisions persisteront, on peut craindre que les organisations terroristes continuent de prospérer sur le terreau fertile des haines religieuses et ethniques. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en guise de conclusion, je souhaiterais, mes chers confrères, vous livrer les réflexions que m'inspire la situation actuelle et l'arrivée au pouvoir à Washington le 20 janvier prochain d'un nouveau président des États-Unis. On peut espérer que d'ici là, les offensives engagées contre l'État islamique par la coalition permettront des avancées décisives à Mossoul en Irak et à Raqqa en Syrie. Mais ce serait une erreur de croire que la menace du terrorisme islamique, qu'il s'agisse de Daesh ou d'Al-Qaïda, aura été éliminée. Elle renaîtra sous une forme ou sous une autre aussi longtemps qu'un règlement politique englobant toutes les composantes des nations irakienne et syrienne n'aura pas été acceptée par les sunnites. En Irak, le chemin en est tracé. C'est purement une question de volonté politique, notamment de la part de la majorité chiite. Est-elle prête à accepter un vrai partage du pouvoir avec les minorités sunnites et kurdes ? En Syrie, tout reste à faire. Et la voie vers une solution réside, me semble-t-il, dans une négociation à trois étages. Le premier devrait rassembler les représentants de toutes les communautés syriennes, en excluant, bien sûr, les mouvements terroristes. Cette négociation entre Syriens ne porterait pas sur la guerre, mais sur la Syrie de l'après-guerre. Quelles institutions ? Un État fédéré ? Unifié ou fédéral ? Quelle garantie la majorité sunnite est-elle prête à donner aux minorités, notamment alaouites et chrétiennes ? Un accord sur ces points essentiels rendrait secondaire la question du pouvoir de Bachar al-Assad. Mais il n'y aura pas d'accord entre Syriens sans accord entre les puissances régionales qui se livrent en Syrie à une guerre d'influence sans merci, notamment l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. C'est le second étage de cette négociation nécessaire. Or, la confrontation entre l'Iran, leader du monde chiite, et l'Arabie Saoudite, leader du monde sunnite, est telle qu'une implication directe et forte des 5 membres permanents du Conseil de sécurité est nécessaire pour les amener à trouver le chemin d'un compromis acceptable. C'est le 3e et indispensable étage de cette négociation souhaitable. Au lendemain du 11 septembre 2001, l'entente entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité a été profonde. Plus récemment, les 5 et l'Allemagne ont remarquablement travaillé ensemble pour parvenir à un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Il faut espérer que la nouvelle équipe au pouvoir à Washington, qui semble vouloir renouer un dialogue positif avec Moscou, s'engagera dans cette voie. Un dernier mot, Monsieur le Président, sur l'Afghanistan. Le drame de ce pays est d'être, pour la 2e fois, sorti des écrans radars des principaux gouvernements concernés. La première fois, ce fut après le retrait des troupes soviétiques en 1989 et le trop rapide retrait de la présence des Nations Unies qui déboucha sur la prise de pouvoir par les talibans. Aujourd'hui, le désengagement international ouvre la voie à un possible retour des talibans à Kaboul. Pire encore, à une présence croissante de l'État islamique dans ce pays, avec des risques de métastase au Pakistan voisin, un État doté de l'arme nucléaire. Là encore, seul un engagement résolu de la communauté internationale et d'abord une entente des 5 membres permanents peut éviter que ne réapparaisse la menace qu'il y a 15 ans exactement, a débouché sur la destruction des tours jumelles de New York. Monsieur le Président, je vous remercie.